bonjour, bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Quand la musique fait du bien au cerveau, elle éveillerait notre curiosité, favoriserait l'attention et la mémorisation. Mais y a-t-il des fondements neuroscientifiques à tous ces présupposés? Retour sur quelques idées reçues et des avancées à partir de 12h55 avec une spécialiste du cerveau musical, la québécoise Isabelle Peretz, auteure de « Apprendre la musique » chez Odile Jacob. Mais d'abord, alors que la ministre Françoise Nyssen vient d'annoncer la création de deux groupes de travail sur le désir d'architecture et la reconnaissance de la discipline, en réponse à la contestation par la profession de la future loi Elan, un autre regard sur les lieux, le bâti et l'écologie, celui des architectes Patrick Bouchain et Nicolas Delon, qui ira avec son collectif porter le regard de la France à la Biennale d'architecture de Venise, qui ouvre ses portes dans une semaine. C'est à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Midi 3 sur France Culture, une 71e édition qui touche à sa fin avec Palmarès demain. Et donc, dernier journal de Cannes avec vous, Antoine Quillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Premier film d'une cinéaste syrienne, Gaïa Djigi, mon tissu préféré, extrait.
ليش ما بيشوف واحد من امريكا محل معايش لانه بده ياخذ واحد من البلد
تعرفي ماما عم فكر بشي هديك المره انا بعمري ما شفتك عم تبكي معقول في مره ما بتبكي ابدا.
Un festival, Antoine Guillot, rattrapé par l'actualité.
Oui, alors le délégué général du festival, Thierry Frémaux, quand il sélectionne des films, il aime à dire que ces films donnent des nouvelles du monde. Et pourtant, à Cannes, vous savez, c'est une sorte de bulle où pendant 10 jours, le monde ne pénètre pas à l'intérieur des salles réellement. Et pourtant, si on a entendu cet extrait du très beau film, d'ailleurs très beau premier film de Gaïa Djigi, mon tissu préféré, c'est que sa comédienne, Manal Issa, a fait événement. C'était mercredi, pendant la montée des marches de Solo. Vous savez, le dernier opus de Star Wars, on ne peut pas faire plus éloigné de la actualité en brandissant une affiche de soutien aux Palestiniens. Stop the attack on Gaza, arrêtez l'attaque sur Gaza, une référence évidemment auprès de 60 manifestants palestiniens tués lundi dans les violents affrontements entre les soldats israéliens et les Palestiniens. Et à Cannes, en principe, on n'est pas censé faire ça sur les marches, et pourtant chacun le fait un peu dans contrebande. L'an dernier, c'était la ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, qui avait fait parler d'elle parce qu'elle portait une robe qui est avait tout d'un manifeste puisqu'elle représentait la ville de Jérusalem, la vieille ville et puis la coupole dorée du Dôme du Rocher. Donc évidemment c'était à analyser. Et puis il y a 2 ans, c'était l'équipe brésilienne du très beau film de Kleber Filho Mendonça, Aquarius, qui brandissait des affiches en soutien à Dilma Rousseff. Donc voilà, c'est une manière aussi pour les festivaliers de se rappeler que pendant que Cannes se réjouit, le monde tourne et pas toujours très bien.
Antoine Guillot, on va faire un pré-bilan avec vous de cette 71e édition avant le Palmarès de demain, donc pas de pronostic particulier, peut-être un film coup de cœur. Et globalement sur cette édition ?
Globalement, on s'interrogeait un peu quand la sélection avait été annoncée en avril parce qu'il n'y avait pas les grands noms du festival, les grands habitués, donc on sentait un renouvellement et tout renouvellement est un pari. Et on peut dire que le pari est quand même remporté puisque sur les 19 films qu'on a vus à présent, il y en a 21 au total, une bonne moitié est vraiment d'excellente qualité. Il y a dedans 2 très grands films et notamment, et ce serait vraiment ma palme d'or idéale, le film de Jafar Panahi qui est, vous savez, ce réalisateur iranien qui n'a pas pu venir à Cannes. 3 visages est un film magnifique, mais le film d'Alice Rohrwacker, Heureux comme Lazzaro, nous rendrait également très heureux. J'ai oublié de parler d'un autre réalisateur empêché dans l'actualité qui s'invite à Cannes, c'est le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Si vous allez aux séances de la quinzaine des réalisateurs, vous avez projeté un panneau de soutien à ce cinéaste ukrainien emprisonné en Russie, dans un camp très très dur, vraiment là-bas, parce qu'il avait été accusé d'actes terroristes, qui était en fait son opposition à l'annexion de la Crimée par la Russie. Et bien on vient d'apprendre, c'est très inquiétant, qu'il a entamé une grève de la faim illimitée qui ne s'arrêtera que quand les 64 prisonniers politiques plus lui-même, prisonniers politiques ukrainiens détenus comme lui en Russie, seront libérés. Les cinéastes à Cannes lui apportent tout leur soutien.
Voilà, appel de la profession à Cannes pour en soutien aux cinéastes. Merci beaucoup Antoine Guillot. Toutes vos chroniques cannoises sont à retrouver sur franceculture.fr. Demain, 14h, 15h, dernier plan large en direct de la Croisette, à quelques heures du palmarès, avec le cinéaste américain Terry Gilliam pour L'homme qui tue à Don Quichotte, présenté en compétition qui clôturera le festival. Et puis le cinéaste coréen Lee Chang-dong pour Burning, en compétition aussi. Et la cinéaste, l'une de vos chouchous, italienne Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazaro, aussi en sélection officielle. Merci pour ces différents journaux, Antoine. Merci et bonne fin de festival.
Merci à vous.
Quand un festival s'apprête à fermer, une autre manifestation s'apprête à ouvrir à quelques jours de l'ouverture de la Biennale internationale d'architecture qui débutera le 26 mai. Rencontre et dialogue entre Nicolas Delon, cofondateur du collectif Encore Heureux, qui ira à Venise représenter le pavillon français, et Patrick Bouchain, architecte du magasin de Grenoble et du lieu unique à Nantes, invité d'honneur de la première Biennale d'archi d'Orléans qui vient de s'achever, commissaire aussi invité à la Biennale, c'était en 2006, qui ne manquera pas de fournir à Nicolas Delon et à son collectif quelques conseils peut-être. Deux générations d'architectes qui se connaissent bien et un désir commun, celui d'habiter le monde. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Thème cette année de la Biennale, Free Space, Nicolas Delon. Comment vous l'entendez? Qu'est-ce que c'est un espace libre?
Alors, le thème qui a été donné par les commissaires générales irlandaises de Grafton Architects, de Free Space, nous avons souhaité l'interpréter presque dans un sens littéral. Quels seraient aujourd'hui les espaces de liberté en France, mais bien sûr au-delà? Quels seraient les endroits où des hommes et des femmes se réunissent pour essayer d'inventer un futur plus soutenable? On voit bien qu'on est face à des véritables voies sans issue, collectives, sociales, écologiques, constructives même. L'épuisement des ressources, par exemple, on ne va plus pouvoir construire les bâtiments, même celui-ci de la maison de la radio. Dans très peu de temps, on n'aura plus de béton, on ne pourra plus faire ce type de bâtiment. Et donc, on a voulu partager des expériences, des personnes et des lieux avec cette exposition « Lieu infini ».
Qu'est-ce qui peut réduire, Patrick Bouchain, la liberté d'un lieu? Quand un lieu est vierge, par exemple, est-ce que c'est déjà un lieu sous contrainte?
Non, pour moi, la liberté d'un lieu, c'est la liberté qui permet à son utilisateur de se l'approprier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que l'architecture est encore ouverte et qu'elle est offerte à celui qui va s'en servir, et que celui qui va s'en servir, donc, va pouvoir aménager, transformer et accueillir. Et donc, c'est ça, une architecture ouverte. Et aujourd'hui, par la réglementation ou par les modes de commande de l'architecture, on ne fait que des lieux fermés. On fait des lieux, on peut dire, coercitifs, barbares, qui sont des lieux que moi j'appelle d'exécution. Et donc toutes les écoles se ressemblent, tous les logements sociaux se ressemblent, et habiter dedans, c'est presque une atteinte au lieu. Même les architectes, d'ailleurs, revendiquent un droit de suite, comme si on ne pouvait pas changer leur architecture au prétexte que c'est une atteinte à l'œuvre. Et la démarche donc de Nicolas Delon, et d'Encore Heureux, c'est de dire au contraire, la richesse d'une architecture, elle est donnée, ou le sens de l'architecture est donné seulement au moment où la personne peut l'habiter. Et très souvent, les lieux industriels ou les lieux abandonnés sont plus habitables que les lieux qui sont faits pour être habités. C'est-à-dire ce qui n'est pas fait pour être habité est ouvert à l'appropriation et devient habitable parce que les gens le transforment. Donc je pense que c'est l'avenir de l'architecture.
C'est-à-dire que plus que le bâti, Nicolas Delon, c'est le sens du lieu que l'on verrouille aujourd'hui de plus en plus.
Le sous-titre de l'exposition que nous avons choisi est « Construire des bâtiments ou des lieux ». Donc c'est vrai qu'entre ces deux mots-là, on pourrait parler d'un contenant et d'un contenu. C'est aussi une réflexion sur le métier d'architecte qui aujourd'hui est un peu battu en brèche, où certains voudraient l'affaiblir ou le diminuer. Nous, on pense au contraire que c'est un métier qui est fantastique, parce que c'est un métier de généraliste, c'est-à-dire que c'est un métier qui peut commencer très très tôt dans des projets et qui peut aussi se poursuivre très très en aval de la livraison des bâtiments. Et donc, entre ces deux notions, le bâtiment et le lieu, nous partageons 10 expériences, 10 lieux, pour le coup, que nous essayons de raconter avec une grande sensibilité, une grande intimité aussi avec ces endroits-là.
Idéalement, on peut dire hier on construisait des bâtiments, demain on pensera des lieux.
Absolument, ça serait un objectif.
Alors parmi ces 10 bâtiments, le 104 à Paris, la friche de la Belle de Mai à Marseille, le Tripostal à Avignon, vous avez choisi donc de raconter 10 lieux pionniers à vos yeux, où architecture et expérimentation sociale se mêlent. Quel point commun entre tous ces lieux et comment vous allez mettre ces similitudes en récit?
Il y a différents points communs, même si leur diversité est grande. Ce sont des lieux de courage, ce sont des lieux où des gens s'engagent, parfois avec des moyens dérisoires, pour essayer de transformer le monde, et en tout cas d'engager ce qu'on appelle des transitions. La première transition indispensable, c'est la transition écologique. Quand on vient réactiver ou activer un lieu en déshérence, on évite d'en construire un autre. Donc déjà, on est sur un bilan, on va dire, écologique positif. Ce sont aussi des lieux d'hospitalité. Un autre aussi grand enjeu de notre moment, de notre monde, est bien la question de l'accueil, de la solidarité, solidarité locale, ville-campagne, solidarité à une échelle nationale et solidarité également internationale. Et donc ces lieux-là sont des lieux aussi avec une très grande attention à cette dimension, une attention aussi aux conditions de parvenir à faire des projets collectifs, donc ce qu'on appelle des processus. Et donc nous allons raconter ces processus, comment ces lieux ont réussi à exister, comment par moments ils se sont interrompus, comment ils sont... Ce que nous disons, ils sont très forts et ils sont très fragiles. Et entre ces deux notions-là, on a le sentiment que quelque chose se joue également.
Patrick Bouchamp, puisque vous êtes un peu le parrain de ce collectif, vous avez regardé un peu le projet. Vous avez vu à l'œil nu ce qui pouvait en ressortir comme aussi similitude, comme philosophie qui puisse réunir ces différents lieux.
Oui, de toute façon, voilà, c'est un mouvement que moi j'ai initié il y a très longtemps, mais j'étais un peu seul. Et il faut des fois un temps d'obsolescence, comme on dit, où je me suis senti vraiment très seul. Et puis là, il y a depuis une dizaine d'années, donc, un intérêt par rapport à cette architecture. Et
oui,
donc,
parce que comme il faut quand même toujours rendre à César ce qui lui appartient, ouais. Ce collectif se revendique de vous aussi oui. Là-dessus.
Mais bon. Et moi, si vous voulez, en effet, j'avais décidé de ne pas être architecte. Et quand je suis sorti de l'école, j'étais effaré par la façon dont l'architecture se faisait. Et donc, je pense maintenant, j'avais raison. Voilà. Donc, mais à l'époque, on considérait que c'était, voilà, une vision peut-être isolée. Et donc, de retrouver aujourd'hui une nouvelle génération qui l'exerce, vous voyez, qui n'est pas dans la marge, mais qui est dans le faire tel qu'il est demandé aujourd'hui. Voilà, Nicolas Delon et Julien Chopin et Sébastien Aymar, donc sont les trois de chez Encore Heureux que je connais depuis très longtemps. Donc, c'est un plaisir, si vous voulez, ou c'est un regard, vous voyez, que vous regardez comme ça à la fin d'une vie en se disant, c'est formidable. Parce que maintenant, on peut dire que le message est passé. Et que eux, à leur tour, ils vont transmettre un message à plus jeunes. Et je pense que le mouvement va s'amplifier. Mais la situation, peut-être, est plus favorable pour se poser ce genre de questions. Moi, quand je me posais la question du réemploi, elle était peut-être essentiellement économique. Eux, le réemploi, ils l'ont intégré justement dans une économie écologique. Voilà. Quand je me posais la question de faire moi-même, c'est parce qu'on manquait moins de moyens. Eux, le collectif, c'est dans une dimension presque politique. C'est une autre façon de faire de la politique. Donc, je suis en effet le parrain de cette manifestation.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Un mot juste de la loi Elan qui est en préparation. Un certain nombre d'architectes se sont mobilisés contre certaines dispositions de cette loi. Ils ont reçu, là, dans les dernières 24 heures, le soutien d'un membre du gouvernement, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, qui dit envisager un grand plan qui va permettre de répondre aussi aux attentes des architectes. Qu'est-ce qui chiffonne dans cette loi? Vous, en tout cas, Patrick Bouchamp?
De toute façon, c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire que les architectes, donc, pensent appartenir à une corporation, voilà, hyper protégée. Moi, depuis très longtemps, je pense que cette corporation est limitée. Les paysagistes, les designers, les ingénieurs participent à l'acte de construire. Il n'y a pas que les architectes. Et donc, l'Ordre des architectes, très tôt, a voulu défendre le port du titre, voilà, ou la défense, voilà, de l'architecture au sens classique du terme. Alors, c'est sûr qu'une loi qui dit que des organismes sociaux n'auront plus besoin de faire de concours pour désigner des architectes pour réaliser du logement social, si vous êtes dans une corporation, vous pensez que votre corporation est atteinte. Mais dans la vie, il faut quand même porter un regard critique sur soi-même et sur l'architecture. Quand on voit donc l'ensemble des grandes cités qui ont toutes été construites par des architectes, ou l'ensemble donc des grandes surfaces commerciales qui sont toutes construites par des architectes, on ne peut pas, en travers cela, s'apercevoir que c'est une garantie de la qualité architecturale. Donc il faudrait peut-être aller au-delà de la simple défense de la corporation. Et je pense que c'est le travail, justement, que font cette nouvelle génération et que représente Encore Heureux, c'est de se dire, c'est bien au-delà du bâtiment, c'est au-delà du lieu, et c'est dans l'accompagnement et dans la gestion de cette vie, voilà, que peut-être l'architecture va changer, et non pas dans simplement le maintien du concours, du choix de l'architecte au travers d'une image et de la réalisation d'un objet.
Bon, alors là, en ce moment, la ministre de la Culture, Nicolas Delon, annonce une réflexion autour du désir d'architecture, autour de cette idée d'une architecture pour tous, c'est-à-dire qu'on va peut-être commencer à aller dans des thèmes qui vous intéressent et que vous privilégiez aussi depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la qualité de l'habitat, entre autres, penser l'habitat en fonction de son environnement. J'en reviens juste à ce projet qui en dit long, que vous allez présenter à la Biennale internationale d'architecture qui débutera donc le 26 mai. Il y a aussi une partie réemploi, recyclage, c'est des mots qu'on a déjà commencé à utiliser. Vous réutiliserez les matériaux utilisés par le studio Venezia de l'artiste Xavier Veillant pour transformer le pavillon français dont il s'était emparé l'an passé à l'occasion de la 57e Biennale d'art contemporain de Venise. Écoutez-le justement sur la responsabilité de l'architecte.
Nous, on travaille en équipe. L'équipe que l'on forme à l'atelier, le travail en commun avec les galeries, avec les gens qui nous aident sur un projet comme ça, doit représenter une forme d'idéal politique à petite échelle. Et sans que ça soit une déclaration, mais juste faire des choses à une échelle presque domestique, enfin une échelle, une petite échelle, qui soit quelque chose qu'on puisse assumer, qu'on puisse revendiquer à l'échelle des politiques. Et moi, je suis frappé par le manque de parole, par exemple, des gens qui sont supposés nous diriger. Et je pense que c'est très important d'avoir un engagement, même sur des petites choses. Donc je crois pas qu'on puisse affronter directement des grandes questions politiques et les traiter en images. Souvent, ça donne des choses littérales qui sont un peu foireuses. Mais en revanche, on doit se laisser infiltrer par le champ politique du quotidien. On doit avoir une forme d'attention, et ce qui est un peu difficile, c'est qu'on doit combiner à la fois l'immersion et la distance, la lucidité, la visibilité qu'on peut avoir sur les choses.
Alors il a une réflexion presque d'architecte, l'artiste Xavier Veillant, qui vous parle, Nicolas Delon, sur cette idée de se laisser infiltrer par le champ politique du quotidien.
Oui, c'est un échange que nous avons eu le lendemain où nous avons été donc choisis pour être commissaire du pavillon français. Nous sommes allés à Venise et nous sommes donc allés le rencontrer. Et nous lui avons dit que nous souhaitions conserver les matériaux qui avaient servi à son studio Venezia, les démonter et faire une très grande partie de la scénographie. C'était un acte à la fois symbolique, un acte aussi d'engagement, de considérer que ces biennales sont tous les 6 mois, une très grande quantité de matière qui arrive et qui repartent et qui souvent vont dans des décharges. Et donc, il nous avait dit ce mot-là, qu'il était bien sûr très, très touché par cette demande qu'il acceptait et que, par ailleurs, la Métavilla de Patrick Boucher en 2006 l'avait aussi inspiré sur le fait de rendre habitable ce pavillon français. Et donc, lui, il l'a rendu habitable pour un studio d'enregistrement et de musique. Patrick l'avait rendu habitable pour y vivre réellement. Et donc, on a senti comme ça qu'il y avait un lien entre l'art et l'architecture aussi, parce que on considère que ces limites-là de nos métiers, elles sont aussi en évolution, en transformation. On ne peut plus rester dans une case de spécialiste d'un point A à un point B. Et les questions sur la loi Elan, dont vous parliez tout à l'heure, remettent aussi un petit peu en cause ces aspects-là. Mais nous, on pense qu'il faut vraiment élargir ce métier. Au contraire, de le réduire, il faut l'élargir. Mais pour revenir au désir, on ne peut pas imposer un désir d'architecture. Le désir vient d'un réel désir. Et donc, c'est aussi le vrai défi de notre profession.
C'est-à-dire que Patrick Bouchain, vous insistez, vous aussi, souvent sur cette idée que construire est un acte positif et un acte collectif, hein, Nicolas Delon. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser l'importance d'un bâti aujourd'hui, d'une construction seule. Ça peut être aussi une recherche ou une quête pluridisciplinaire qui doit se faire toujours avec aussi une certaine conception de l'intérêt général qu'on a un peu trop tendance à oublier parfois.
Ce qui est terrible, c'est que tout ce qui nous entoure est architecture, c'est-à-dire qu'on peut dire que et tout habitant est un habitant d'architecture, donc on est tous usagers de l'architecture. Et il y a une chose qui est très oubliée, si vous voulez, c'est le savoir-faire qui permet à l'architecture de se construire. Donc l'équipe pluridisciplinaire, elle est l'équipe de conception, mais elle est l'équipe aussi de la commande. Donc c'est comment la commande peut être claire, mais après elle est l'équipe de la réalisation. On oublie complètement que peut-être les plus pauvres, les derniers arrivants, les migrants, sont en général les gens qui vont travailler sur les chantiers. Et donc on ne travaille pas sur cette richesse de ce collectif qui, à un moment donné, se réunit pour construire un objet qui constitue la ville dans laquelle on habite. Et donc très tôt, moi je l'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, et donc le théâtre ayant peu de moyens, il auto-construisait ses décors, son dispositif scénique. Mais là, je l'ai étendu après à l'architecture, et justement ce que même la démarche là d'Encore Heureux pour ce pavillon, de reprendre ce que Xavier Veillant donc avait fait, et c'est du réemploi, mais c'est du respect de ce qu'il avait construit. Et moi à l'époque, j'avais pris donc ce que Annette Messager avait fait, et j'ai transmis à Sophie Kahl ce que j'avais fait. Voyez, c'est ce passage de relais, c'est-à-dire que c'est pas une participation béni oui oui comme ça, où simplement il faut se réunir et tout. C'est en effet, il faut se donner la main, et on est tous reliés par une même chose. Nous devons vivre ensemble. Et donc, que ce soit un artiste, un ouvrier, je pense qu'il faut se donner comme règle que dans sa vie quotidienne, comme le dit d'ailleurs Xavier Veillant, c'est domestique, c'est micro, mais si on s'y met tous les jours, on pourra changer le monde dans lequel on est.
Nicolas Delon, c'est un peu l'image du grand architecte solitaire, iconique, qui est en train de se fissurer aussi, hein, d'une certaine manière, à travers ces démarches collectives qui se multiplient. Vous, les grands gestes architecturaux construits dans le dur et pour durer, il vous laisse de marbre.
En tout cas, il nous questionne. On pense que nous devons les dépasser par rapport aux enjeux dont nous avons parlé. Et on pense aussi qu'il y a une énergie collective qui est bien supérieure à cet architecte tout puissant qui construirait un objet qui, le jour de sa livraison ou de sa transmission, commencerait en fait à décliner et commencerait à dépérir. Mathieu Poitevin à ce mot-là, qui est l'architecte de la Friche Belle de Mai, en disant une architecture qui est objet, elle meurt, une architecture ouverte, elle est immortelle parce qu'elle va se transformer. Et donc la Friche Belle de Mai, par exemple, c'est un exemple très particulier de ce lieu-là qui, depuis 30 ans, se transforme et qui va encore continuer à se transformer. Donc en fait, il a pas de fin. Et avec le mot infini, c'était aussi ces lieux infinis, c'était aussi essayer d'explorer ce champ-là, de dire comment... c'est aussi la fin de la page blanche des architectes. C'est pas l'idée d'avoir, comme ça, se réveiller le matin, avoir une idée, mais au contraire, c'est avoir une attention très forte sur le déjà-là. Le déjà-là, qu'il soit humain, qu'il soit matériel, qu'il soit contextuel, qu'il soit géographique, historique, c'est comment partir de ce qui est là et de ce qui nous appelle, en fait. Et l'architecte, il devient un passeur, un accompagnant. Et c'est vraiment un changement de paradigme très fort pour ce métier, nous pensons.
Une réflexion sur le déjà-là, le déjà-vu, mais aussi sur le avenir, urgence et présentisme au cœur de l'architecture contemporaine. Vous vous appelez, Nicolas Delon, à lever le pied. Une réflexion sur le temps, redéfinir le temporaire et le permanent, c'est aussi ce à quoi s'attelle l'architecte japonais Shigeru Ban, que nous recevions autour de cette grande table.
Je me suis rendu compte aussi que quand j'ai construit ces églises temporaires en papier à Kobe après 85, c'était là pour 10 ans et c'est devenu un des monuments de la ville. Et on a démonté cette structure pour l'envoyer à Taïwan, où il y a eu aussi un tremblement de terre en tant qu'église permanente. Et donc... maintenant, ça fait 22 ans, mon église de papier est devenue un bâtiment permanent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pas de différence entre permanent et temporaire, et même des bâtiments qui ont été construits en béton par certains architectes sont temporaires, finalement, après les catastrophes naturelles. Donc quelque chose qui est construit pour faire de l'argent peut être aussi temporaire. Et en fait, les églises que j'ai construites en papier sont devenues permanentes. Donc voilà, ça change un petit peu la définition entre temporaire et permanent.
Libérer l'architecture, c'est presque un manifeste. Il y a une exposition en cours à la Fondation Cartier sur le travail de l'architecte Junya Ishigami, Frying Architecture, cette notion du temps. Patrick Bouchain, comment l'expliquer simplement aux auditeurs? Dans l'architecture, dans la construction.
Non, d'abord,
cette temporalité nouvelle.
D'abord sur le temporaire et le pérenne, on ne peut pas le décider préalablement. Pour l'architecture, c'est pareil. Pour une œuvre, on ne définit pas avant que c'est une œuvre. C'est le regard de la chose produite par l'artiste qui fait que c'est une œuvre ou un chef-d'œuvre. Et donc, pour le temporaire, voilà, je pense qu'on ne peut pas le savoir. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le logement social. Un logement social qu'on considérait comme pérenne, puisqu'on sortait les gens des bidonvilles, qu'on considérait comme temporaire. Et aujourd'hui, on démolit le logement social au prétexte prétexte que voilà, il n'est pas conforme à la nouvelle norme énergétique. Donc on peut tout se permettre. Donc moi, très tôt, ce qui m'intéressait dans le temporaire, c'était de dire, eh ben donc l'architecture est reversible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive, elle est reversible, elle est ouverte à sa transformation et elle est même ouverte à sa disparition. Donc en disant cela, vous allégez la réglementation. C'est la raison pour laquelle très tôt, j'ai développé cette idée que le temporaire, c'était le statut de l'architecture. Et donc, dès le moment où vous êtes dans une architecture qui peut être changée ou qui peut disparaître, vous avez donc une réglementation qui s'allège. Et donc, tout le monde dit, mais comment tu as fait pour faire des choses pareilles ? J'ai simplement renommé autrement les choses. Et je pense qu'on est dans une société où tout est nommé. Et donc, si vous dénommez pour renommer autrement les choses, vous facilitez la construction. Et donc, c'est pour ça que là, c'est pas de faire descendre l'architecte de son statut, voilà, de démiurge qui pense tout régler. C'est d'inscrire l'architecture dans le temps long de la vie et non pas dans l'instant de sa construction. Et dans le temps long de la vie, il y a l'éphémère. Et de fait, l'architecture reprend sa place comme un objet d'utilité générale.
Mais alors, pourquoi appeler parfois à pérenniser l'éphémère ? Dans une tribune parue sur Mediapart, début avril, vous défendiez la valeur architecturale des constructions aussi de Notre-Dame-des-Landes. Le Larzac n'est pas reproductible ici, ça c'est ce que disait Nicolas Hulot quand il s'est rendu sur les lieux. Et dans son dernier essai Une nouvelle terre, Dominique Bourg défendait lui l'idée d'un retour à la vie simple avec peut-être cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes comme un laboratoire. Vous y voyez aussi une vitalité ou une inventivité à l'œuvre, Nicolas Delon, sur ces lieux qui justifierait de donner plus de temps à cette expérimentation.
Alors, ce que nous disions par cette prise de parole, c'était pas forcément considérer que l'architecture telle qu'elle est présente sur la ZAD devait rester, mais plutôt que l'histoire humaine et l'exploration menée par ces personnes-là, en opposition à un projet, mais au-delà de l'opposition, ce qui est très important, c'est que c'est aussi une recherche dont la société peut se nourrir. Et donc, on considérait que la destruction globale, sans discernement entre le contenu, le résultat et les processus, n'était pas adaptée. On est dans un monde complexe, et donc les réponses que nous devons chercher et explorer sont également complexes. Et donc, c'est vrai que nous pensons à l'heure où la Startup Nation se doit d'inventer de tout et partout des nouvelles façons de penser, de consommer, de produire en lien avec l'agriculture, l'artisanat. Nous pensons que sur cette ZAD, des choses aussi sont en train d'explorer. Et c'est presque une recherche et développement gratuite. Ça ne coûte pas un euro d'argent public. Et donc, c'était cette idée-là que nous essayons de porter.
Merci Nicolas Delon. On vous retrouvera donc à Venise dans quelques jours à partir du 26 mai jusqu'à l'automne à l'occasion de la Biennale internationale d'architecture. Vous serez avec votre collectif Encore Heureux, représentant au pavillon français. À noter, parce qu'on l'a pas dit, que dans le projet aussi que vous présentez, il y aura un cabinet des curiosités avec des pièces qui racontent l'esprit de chaque lieu, de cette dizaine de lieux pionniers que vous nous racontez. Il y a des belles histoires derrière à retrouver là-bas. Merci à vous, Patrick Bouchain. Une conclusion, peut-être.
Il a de la chance
d'y aller. Parce que Venise est une belle ville.
La semaine prochaine, et c'est un plaisir pour moi de retrouver 11 ans après un pavillon habité.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.